Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur.
Je viens d'établir le record féminin de vitesse à 197,700 de moyenne. J'aurais pu faire peut-être un peu mieux si la piste n'était pas si mauvaise et si elle faisait pas tant de vent.
Vous venez d'entendre la voix d'Hélénis aux actualités filmées du Pathé Journal en 1930. Hélénis, un nom qui ne vous dit rien et pourtant, elle fut l'une des grandes pionnières de la course automobile dans l'entre-deux-guerres. Comprenez bien, elle courait contre les hommes et osa les défier sur les circuits du monde entier. Une championne extraordinaire. Mais alors pourquoi est-elle inconnue de tous? Eh bien, victime d'une odieuse calomnie, la société d'après-guerre a condamné Hélénis à la misère et à l'oubli. Il semble néanmoins que l'heure a sonné de la réparation. Ce soir donc, trois invités au micro d'Inter pour nous remémorer cette vie hors norme que fut celle d'Hélénis. Tout d'abord, Yvan Gasteau, historien, il enseigne à l'université de Nice, ville où elle est morte en 1984. À ses côtés, Manon Bossenec, l'arrière-petite cousine d'Hélénis, qui a retrouvé une malle au souvenir il y a à peine 15 jours. Elle va nous raconter ça dans quelques minutes. Et enfin, Lionel Lucas, éditeur et co-auteur avec Manon Bossenec d'un roman graphique à venir consacré à cette figure oubliée de l'émancipation féminine au XXe siècle. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire enchantante de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, Benjamin Biolay, passion Grand Prix, justement. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, Hélénis, femme bolide et trompe la mort.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors commençons avec l'actualité de la semaine. Il a beaucoup été question de conscience politique chez les footballeurs après l'interruption du match de Ligue des Champions au Parc des Princes mardi soir ou de la décision d'Antoine Griezmann de rompre son contrat avec le géant YY. Des gestes forts qu'on a qualifiés de rarissimes mais qui s'inscrivent néanmoins dans une histoire longue. C'est l'occasion de se souvenir ce soir, par exemple, du courage. Oui, du courage des footballeurs algériens emmenés par l'immense Rachid Mekloufi. Nous étions en France en avril 1958.
10 footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord.
Auprès du peuple français, nous avons donné un aperçu, c'est-à-dire de réveiller peut-être. Parce que souvent, en tout cas ici à Saint-Étienne, la guerre d'Algérie était absente, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très loin pour eux. Mais on a donné la possibilité aux jeunes Français de dire « Tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe. Pourquoi ces garçons qui étaient bien dans nos clubs, avec des possibilités, avec énormément de facilité, etc., bien à l'aise, partent. Il y a quelque chose qui se passe. »
Devenu international algérien, Rachid Mekloufi choisira de revenir à Saint-Étienne. Un retour en fanfare. Avec les Verts, il gagnera 3 nouveaux titres de champion de France. Et en guise d'apothéose,
Mekloufi portant la Coupe de France à bout de bras.
Une coupe nationale. C'était en mai 68. 10 ans après sa révolution à lui.
Après le courage de Rachid Mekloufi, poussons jusqu'à Nice où s'est éteinte une autre bravoure. Voici l'histoire du dimanche soir. Entre 1936 et 2019, plus de 45 000 brésiliennes ont été prénommées Hélénis. Hélénis, E-L-E-N-I-C-E. Pourquoi Hélénis? En mémoire d'une Française, pionnière des courses automobiles, championne hors norme, disparue des mémoires, qui s'était choisi un sobriquet dont on tentera tout à l'heure de vous expliquer les raisons. Ce sobriquet, c'était Hélénis, H-E-2-L-E, plus loin, N-I-C-E. Mais alors pourquoi cette popularité au Brésil, pays d'Ayrton Senna? Et pourquoi 1936? La réponse vous êtes offerte par les actualités du Pathé Journal. Mademoiselle Hélénis était face à la caméra. C'est dire à quel point elle était une vraie vedette.
Mademoiselle Hélénis, voulez-vous, pour les spectateurs de Pathé Journal, dire quelques mots sur le terrible accident survenu le 12 juillet 1936 au Grand Prix automobile de Sao Paulo au Brésil?
Très volontiers, bien qu'il me soit toujours très pénible d'évoquer cet affreux événement qui fit 8 morts et 31 blessés et me retint à l'hôpital 36 heures dans le coma, 15 jours inconsciente avec un choc à la colonne vertébrale. Je ne veux pas chercher des excuses personnelles à mon accident, mais la vérité m'oblige à dire que les organisateurs de la course et le coureur brésilien Tefé ont une lourde responsabilité. Les spectateurs étaient massés sur un terre-plein situé entre les deux pistes et contenu seulement par une corde tendue. Voilà la terrible aventure que j'ai vécue et dont je garde un affreux souvenir. Ce que je veux dire surtout, c'est que j'aurais pu certainement passer Tefé et que je n'aurais tué personne si la foule n'avait pas été sur la route.
Aujourd'hui encore, on admire donc au Brésil la bravoure passée d'Hélénice, d'où ce prénom donné depuis 1936 à ces jeunes brésiliennes. Lionel Lucas, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous à ce micro. Vous êtes en train d'écrire un livre consacré à la vie d'Hélénice, justement. Ce sera un roman graphique qu'on peut apercevoir sans doute à un horizon 2021, Noël 2021.
Ouais, d'ici un an, ouais.
Voilà, exactement. Donc, qui sera intitulé Rugissante. D'abord, comment avez-vous eu connaissance de cette vie oubliée ?
D'une manière totalement improbable, au Japon. Je venais de terminer mon premier livre sur Honda. Et après une rencontre avec Hirotoshi Honda, donc le fils de Soichiro Honda, cette histoire, la rencontre a été assez forte. Et le lendemain, je me retrouve dans une librairie de Tokyo et le seul livre en anglais que je trouve, c'est des biographies, sans histoire de pilote, sans vraiment savoir ce que je cherchais. J'achète le livre et là, je tombe sur Hélénice, que je connais absolument pas. Il y avait deux pages dessus et j'ai été scotché. Du coup, j'essaie d'en savoir un peu plus. Il n'y avait rien écrit en français dessus. Et puis, du coup, c'est un an et demi de rencontres heureuses, de travail. Et puis, jusqu'à vous aujourd'hui, c'est rien en cours.
On va en reparler ce soir, évidemment. Yvan Gastaud, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Alors vous êtes historien, Yvan, à l'université de Nice, une ville chère au cœur d'Hélénice. On va y revenir, bien sûr, c'est là qu'elle est morte en 1984, entre autres. Pour commencer, Yvan, quelle place elle occupe, Hélénice, dans la mémoire niçoise ?
Philippe, la réponse va être très simple, hein. Elle a aucune place dans la mémoire niçoise. C'est-à-dire qu'en fait, elle est totalement méconnue, totalement inconnue. Rien, aucun niçois ne la connaît, ou très très peu. Il faut vraiment être un adepte de la course automobile ou être quelqu'un comme moi ou d'autres historiens qui s'intéressent à cette époque. Mais je dirais que pour le niçois, les niçois et niçoises, ce nom ne dit rien. Pourtant, il parle de Nice, hein, on va en reparler, mais il n'y a pas de mémoire, comme ça a été dit au début, hein, de cette figure qui mérite sans doute d'être davantage mise en lumière, c'est certain.
Absolument. Manon Bossenec, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes l'arrière-petite cousine d'Hélénice. Autrement dit, vous êtes la petite fille de Robert Delangle, qui était donc le neveu d'Hélénice. Vous m'avez dit au téléphone cette semaine que votre famille ignorait jusqu'à 2010 qu'Hélénice appartenait à votre famille. Comment vous l'avez su, ça, Manon ?
Alors, en fait, moi, je l'ai pas su avant 2009-2010, en fait, avant la commémoration de réhabilitation d'Hélénice, en 2010, du coup. Mm-hmm. Toutefois, ma tante, en fait, Sophie Delangle, a entrepris quelques recherches sur notre famille, le nom de famille Delangle, et elle a trouvé, en fait, en 2007, l'existence de Mariette Delangle. Donc, forcément, quand elle en a parlé à son père, donc mon grand-père, Robert Delangle, lui, en fait, il a évoqué très rapidement un souvenir très fort, très marquant, qui est quand il avait 7-8 ans, en 1942, donc en pleine guerre, pleine Deuxième Guerre mondiale, il a vu, en fait, Mariette. Donc nous, en fait, on l'appelle Mariette.
Oui, parce que Mariette Delangle, c'est le nom d'un état civil d'Hélénice. Hein,
tout à fait, tout à fait, oui. Donc il a vu Mariette, donc Hélénice, arriver avec sa robe à fleurs, une magnifique robe à fleurs. Il se souvient, il était totalement... ébloui par ses bonnes manières, il arrive à la ferme de sa maman, justement, de la maman de Robert Delangle. Et donc Robert, mon grand-père, avait 7-8 ans. Il était en train de faire ses devoirs sur la table de la pièce principale. Et Mariette, en fait, est venue tout simplement se ravitailler, donc chercher les œufs à la ferme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un souvenir que mon grand-père a évoqué à nouveau avec nous, qu'il avait gardé en fait jusqu'alors. Mais il se souvient très bien qu'à l'époque, effectivement, tout le monde savait qu'elle était pilote automobile.
Manon, vous œuvrez donc aujourd'hui à la mémoire d'Hélénice. Vous coécrivez ce livre avec Lionel Lucas, ce livre à venir. Oui. Et c'est arrivé une histoire assez incroyable il y a 2 semaines, grâce à une femme qui a côtoyé Hélénice à la fin de sa vie. On vous a confié une malle, hein, donc c'était il y a 2 semaines. C'est très romanesque, cette histoire. À quoi elle ressemble, cette malle, et qu'est-ce que vous y avez trouvé dans cette malle d'Hélénice ?
Alors oui, en fait c'est assez fou et je tiens quand même à dire qu'avec Lionel Lucas qui est sur le plateau, on s'est rencontrés grâce à vous en juin parce que vous avez fait une chronique sur Hellenis.
Absolument, chez Bruno Deluc.
Et en fait, c'est exactement et en fait suite à cette chronique sur Facebook, Lionel Lucas a mis un commentaire et en fait, j'ai réagi à ce commentaire et nous nous sommes appelés et en fait, il a trouvé comment on pourrait collaborer sur le livre qu'il est en train de faire donc Rugissante. Et en fait, c'est alors qu'a commencé notre démarche d'enquête. Enfin, pour lui, elle se poursuivait. Pour moi, elle commençait à nouveau. Elle recommençait. Et c'est donc là que on a retrouvé le numéro de téléphone de la fille du dernier propriétaire d'Hellenis à Nice, du coup. Et en fait, cette femme-là, on l'a contactée. Elle nous a invités. Et il y a deux semaines, nous sommes allés chez elle et elle nous a raconté différentes histoires qu'elle a vécues en présence d'Hellenis, puisqu'elle est encore vivante, cette femme, et elle a connu Hellenis, donc c'est une des rares témoins qui reste aujourd'hui vivante.
Et donc il y avait une malle à la cave, c'est bien ça?
Il y avait une malle à la cave.
À quoi elle ressemble, cette malle?
Et donc cette malle, c'est finalement pas une malle. On était complètement surpris, parce que c'est une valise, plutôt une valise cabine, en carton, d'époque, hein, totalement. Elle est noire avec quelques reflets bleus et en fait sur le dessus il y a l'inscription H.N.
Elle est monogrammée.
Pour Hellenis, elle est monogrammée, tout à fait. Et donc quand on l'a ouverte, on était vraiment très émus et on a trouvé des tas de lettres, beaucoup de photos originales avec des inscriptions derrière chaque photo au crayon de papier d'Hellenis en personne, avec
un vrai trésor.
Un vrai trésor, vraiment incroyable. Et on a aussi trouvé beaucoup de croquis, de dessins, d'illustrations, de peintures. Parce que, en fait, faut comprendre que là aussi, on l'a vraiment compris. Hellenis, elle avait 1000 talents, notamment le dessin. Et en fait, on comprend à travers tout ce contenu dans cette valise que tous les talents, elle excellait en tout. Pas que en danse, pas que en pilote. On a même retrouvé un certificat d'alpinisme. Elle avait 25 ans à ce moment-là. Elle a monté les plus grands monts, c'est juste hallucinant. Donc,
incroyable,
voilà,
cette histoire de mal retrouvée il y a 15 jours. Ouais. Lionel, reprenons depuis le début. Hellenis est née en 1900. Elle était civile, elle s'appelle donc Mariette Delangle. Son père était receveur des postes, Léon Delangle, à Aunay-sous-Auneau, en lointaine région parisienne. Lui, il meurt en 1904. La jeune femme monte à Paris, donc Mariette, sans le sou. Quel chemin choisit-elle?
Elle choisit un chemin tout simple, celui de l'émancipation. Alors, je suis allé là-bas, effectivement, dans la Beauce, c'est très calme, mais pour une épicurienne comme elle qui a besoin de vivre tout à 2000%, c'était un peu limite. Donc, elle arrive à Paris, elle a pris l'ascenseur social vitesse grand V, donc a commencé par la danse. Elle a vite charmé beaucoup de monde, elle est talentueuse, sportive.
Elle est devenue modèle, puis danseuse nue.
Voilà, tout à fait, ouais.
Beaucoup de popularité dans Paris,
elle est
au casino de Paris, elle danse nue sur scène, elle est très 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 populaire déjà.
Elle est très populaire, et elle se fait énormément d'amis, elle sait se faire des amis.
Et beaucoup d'argent aussi.
Et ben ça va avec.
Ouais, bien sûr,
on l'a vu en Hispano Suiza d'ailleurs, donc c'était l'une des voitures les plus chères au monde à l'époque. Mmh. Et du coup, comme le disait Manon, beaucoup de sport, de ski, de alpinisme, et c'est un accident de ski qui met fin à sa carrière de danseuse et elle bascule dans le sport automobile. Elle se découvre une nouvelle passion et évidemment, elle ne fait pas ça à moitié.
Yvan Gasteau, sur scène, elle devient Hellenis, surnom qu'on dit qu'elle devrait à un soldat américain en garnison à Paris qui aurait dit Hellenis. Comprenez, elle est nice, elle est charmante, elle est jolie. Elle aurait gardé ce surnom-là, elle est nice, elle est nice, on va dire, voilà. Mais elle rencontre surtout à Paris Henri Girard de Courcelles, qui est très important. Qui est-il, Yvan, et quel rôle joue-t-il dans sa vie?
En tout cas, déjà, Philippe, je suis heureux que vous suscitiez des vocations et que vos émissions soient de nature à découvrir, à faire découvrir des figures oubliées. Ça, c'est formidable.
Et donc,
du coup, effectivement, Hellenis, elle est nice. Cette dimension nice est intéressante, effectivement, parce que en même temps, elle était déjà très intéressée par la ville de Nice. Et donc, quelque part, il va y avoir ce lien entre nice et Nice qui va se développer. Et puis, je voulais dire aussi, par rapport à ça, c'est vrai que le modèle du nu, la danseuse de cabaret, c'est une un des ascenseurs sociaux de cette après Première Guerre mondiale. Et donc, on a à la même époque Joséphine Baker, par exemple, qui
Absolument.
A la même destinée, même si elles ne sont pas de la même origine. Et puis, effectivement, effectivement, comme vous dites, Philippe, elle rencontre ce Courcel, hein, Henri Gérard de Courcel, qui est un pilote automobile avec lequel elle va avoir quelques années, on va dire, de formation, hein, puisque Courcel va l'initier à la course automobile. C'était un ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, mais qui était effectivement devenu pilote automobile après la guerre, et notamment il a remporté les 24 heures du Mans en 1925. Malheureusement, Henri Gérard de Courcel meurt sur scène, on pourrait dire. Hein, il meurt dans une course à Montlhéry, hein, dans l'Essonne, mm-hmm. en 1927. Mais suffisamment, enfin, ils ont vécu suffisamment longtemps tous les deux pour avoir créé le lien, en tout cas l'étincelle chez Hélénis pour qu'elle se passionne encore plus pour la course automobile. Hein, surtout à cette époque-là, ça a déjà été dit par Lionel notamment, hein, c'est que les personnes qui sont intéressées par le sport, et aussi bien d'ailleurs les hommes que les femmes touchent un peu à tout. Hein, la preuve, c'est que un pilote de chasse, quelqu'un qui fait de l'aviation, vient assez naturellement à la course automobile, et peut-être qu'aussi une danseuse du monde peut très vite arriver dans le monde du sport, et pourquoi pas la course automobile. Notamment, il lui permet de passer son permis de conduire.
Et oui,
ça, c'est un élément extrêmement important.
Très important, parce qu'elle va être une des premières femmes à avoir son permis de conduire en 1920, je crois, si je dis pas de bêtises, Lionel. Donc elle est très jeune, et surtout elle est femme et elle peut conduire une voiture. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais à l'époque, les femmes sont mineures jusqu'à la fin de leur vie. Elles ne votent pas, hein, rappelons-le. Donc elle passe son permis de conduire et elle va donc se passionner pour la course automobile grâce à De Courcel, comme on vient de le dire. Mais il faut comprendre bien qu'elle pilote au milieu des hommes. Elle concourt au milieu d'hommes. Comment est-ce qu'elle vit ce statut de femme pilote au milieu d'hommes qui courent sur des circuits, sur des bolides pas croyables?
Ben, pour elle, c'est tout à fait normal, en fait. Mm-hmm. Il y a une espèce de constante, en fait, quelles que soient les générations de femmes pilotes, c'est que quand elles arrivent au plus haut niveau, elles, c'est juste normal, elles sont à leur place. Récemment, j'ai publié un livre qui s'appelle Formula Helmet, qui au passage est nominé au Festival Automobile International, et on a interviewé Giovanna Matti, et elle nous dit ça, donc je cite, « J'aimais mettre mon casque, car c'est le moment où je devenais un pilote avec la même identité que tous les autres sur la piste, à égalité et non plus une femme. » Donc c'était juste à égalité. Et voilà, c'était pas forcément se mettre en avant, mais vraiment à égalité. Elles étaient dans son environnement, en fait. Mais c'était très novateur à l'époque, il faut recontextualiser, personne ne faisait ça.
Yvan Gasteau, à l'époque, justement, les sports mécaniques sont très populaires, hein, que ce soit l'aviation, par exemple, ou les courses automobiles, parce qu'en fait, ils mettaient en avant la vitesse et les progrès techniques, bien sûr, au point qu'Hélénis devient très en vue, hein, puisqu'elle en fait de plus en plus des compétitions. Et que lui propose alors Yvan la marque de cigarette Lucky Strike?
Oui, alors là, c'est effectivement très... C'est le passage à la starification. Hein. D'ailleurs, on sait le lien qui existait fut un temps entre les cigarettes et les courses automobiles. Hein.
Et oui.
Le sport n'était pas toujours aussi vertueux qu'aujourd'hui en termes de santé, disons. Oui, Philippe, vous avez raison. La course automobile trouve toute sa vitesse de croisière, c'est le cas de le dire, dans les années 1920-1930. Pour prendre une balise très claire, c'est la naissance du Grand Prix automobile de Monaco en 1929.
Et, oui.
et dans Nice, la ville de son cœur, on participe aussi, enfin on organise des courses automobiles sur la promenade des Anglais. Donc c'est la grande époque, vraiment la grande époque de la course automobile, avec effectivement l'horizon de la vitesse, se laisser griser par la vitesse, mais aussi faire de la vitesse un enjeu très important de compétition. Vitesse, progrès, luxe, aventure, sport, tout ça est très lié. Et alors qu'elle va aux États-Unis, hein, elle va participer à un certain nombre de courses aux États-Unis. Bon, elle n'en remporte pas, mais elle est au milieu des hommes,
courses,
comme vous l'avez
je crois.
Dit,
76 courses, oui.
Et donc Lucky Strike va la remarquer et en faire son égérie. Et donc, elle devient, à partir de 1930, l'égérie de la marque Lucky Strike, et donc, du coup, bien connue du monde entier, effectivement.
Et oui, elle devient une vraie vedette mondiale. Lionel, au retour des États-Unis, après ses 76 courses et cette tournée américaine, elle rencontre Philippe de Rothschild, qui lui présente Ettore Bugatti, qui est donc le fondateur de la firme automobile. Et donc, elle intègre l'écurie des pilotes Bugatti, ce qui est quand même pas rien. Et il faut dire à quel point elle devient très compétitrice, Lionel. Elle se place à toutes les courses. Elle est extrêmement douée, Hélénis, au volant d'une voiture.
Bah, on peut dire qu'elle est très douée. Le premier extrait que vous aviez passé, où elle bat le record du monde,
oui.
Il faut imaginer, vous êtes il y a presque un siècle, sur le circuit de Montlhéry. En décembre, il y a de la neige. Et elle vient de rouler à quasiment 200 de moyenne. Sur une Bugatti 35. Et la première chose qu'elle trouve à dire, c'est « je peux y retourner, je peux aller plus vite ».
Oui.
On lui a dit « non, mais il faut arrêter là ». Donc, faut quand même il y a un certain courage, une témérité. Et autre chose aussi, pour souligner ce que vous disiez, c'est que la fameuse course qui est un tournant dans sa vie, la fameuse course au Brésil.
1936. Sao Paulo.
À Sao Paulo, c'est le circuit de Gavea qui était surnommé le toboggan de la mort. Donc, un truc absolument terrible avec la foule dans tous les états. Enfin, bref. Et cette course-là, elle peut terminer sur le podium. Sur les presque 30 concurrents, elle aurait fini troisième au bout de 4 heures de course. Aujourd'hui, un Grand Prix de Formule 1 s'est limité à 2 heures. Elle a fait le double. Et au volant d'une Alfa Romeo d'époque, donc, il y avait le courage, le talent, le savoir-faire. Donc je pense que si elle avait effectivement intégré plus tard des écuries prestigieuses avec une bonne préparation, elle avait complètement sa place. Et oui, on peut dire qu'elle était très douée. Ouais,
elle a fait beaucoup de grands prix, hein, il faut le dire encore à cette
roue.
Elle a fait beaucoup de grands prix et placée quasiment à chaque fois. C'est quand même une prouesse ahurissante dans les années 30. Yvan Gastaud, la Seconde Guerre mondiale va stopper les compétitions de course automobile, bien sûr. À l'époque, Elle est amoureuse d'un certain Arnaldo, je crois, Hélénis. À quoi va ressembler la vie de cette femme pilote sous l'occupation, Yvan?
Oui, alors Philippe, c'est effectivement les sports ne s'arrêtent pas tous hein, avec la Seconde Guerre mondiale, mais oui, le sport automobile, pour des raisons qu'on peut comprendre, est totalement stoppé, stop net. Donc c'est un coup d'arrêt effectivement pour ces années glorieuses du sport automobile. Je voulais préciser aussi que il y a des compétitions mixtes, mais il y a aussi des compétitions féminines. Hein. Je pense au Paris Saint-Raphaël. Hein, le rallye Paris Saint-Raphaël est un rallye typiquement féminin. Hélénis l'a remporté, je crois, en 1932. Donc, je voulais dire aussi qu'elle courait pour des firmes extraordinaires. Hein. Tout à l'heure, vous évoquiez Bugatti. C'est une des marques les plus mythiques des années 30. Hein, cet Italien qui s'est implanté en Alsace. Donc, tout ça est extrêmement intéressant. Et oui, pendant la guerre, les choses s'arrêtent. Et c'est un peu le début d'une difficulté pour Hélénis, qui avait parcouru ses années 20 et 30 à toute vapeur, à toute vitesse, on pourrait dire. Et là, 1940, c'est un peu le coup d'arrêt, c'est un peu la difficulté, même si elle est en lien avec ce jeune pilote qu'elle a remporté sur une course de côte entre Nice et la Turbie, d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Et la situation est difficile en 1940, de ce qu'on peut savoir, hein, parce que là, il y a effectivement un déficit de sources et de documents. Hein, les premières années sont un peu difficiles, et ensuite, eh bien, on les retrouve tous les deux, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on pourrait appeler un moment incertain de leur vie, avec l'acquisition de la part d'Hélénis d'une maison assez intéressante, assez importante dans la ville de Nice, hein, sur les hauteurs de la ville de Nice en 1943.
Donc ils vivent à Nice tous les deux sous l'occupation, on n'a pas trop d'informations de leur vie quotidienne, mais on imagine que ce couple vit à Nice sur la fin de l'occupation. Manon Bossenet, comment votre famille et vous-même avez réagi en découvrant cette figure très émancipatrice au sein de votre famille ?
Ben, très honnêtement, on était fascinés. Et je pense que tout le monde l'est. Du coup, on s'est un peu pris de passion pour cette histoire et on continue aujourd'hui d'enquêter. Et là, avec la valise retrouvée, on continue encore plus de déplucher. Voilà, ces coupures de presse qui restent des années 20, 30, etc. Les lettres. Et voilà, ça fait de bons sujets de conversation en famille hors Covid.
On imagine. On va vous raconter dans la seconde partie de l'émission pourquoi nous avons tous oublié le nom d'Hélénis. Il y a sans doute une raison à ça. Il y a une odieuse calomnie qu'elle a dû affronter juste après-guerre. On va y revenir juste après la pause musicale avec le comeback d'une artiste extra-classe du Kansas. Elle s'appelle Janelle Monae. Le titre joué, Turntables. The table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Cooking with my Crisco, look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean, got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime, liberation, elevation, education. America, you a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world about to testify, and the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my
intuition. Hands dirty, mind clean. A different mission with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. We gon' watch the table. Now we gon' watch the table.
À Lyon, en présence de 100 000 personnes, le Grand Prix de l'ACF est couru de nouveau et pour la première fois depuis la guerre.
Philippe Collin.
18 concurrents ont pris le départ et Louis Chiron prend la tête de la course. Et c'est à 125 km 666 de moyenne que Chiron gagne pour la quatrième fois en 25 ans le Grand Prix de l'ACF. 1931, 34, 37, 47, bonne chance pour la cinquième.
Sur France Inter.
Louis Chiron est né à Monaco en 1899 et il fut lui aussi un des grands pilotes automobiles des années 30. Et après 5 années de guerre sur le vieux continent, le champion des circuits s'impatientait de reprendre les compétitions. Ainsi, avec toute la confrérie des courses automobiles, Chiron attendait avec joie le grand retour du rallye de Monte-Carlo. Nous sommes en 1949, tous les pilotes d'avant-guerre, dont Hélénice, cette extraordinaire femme pilote, était présente sur la Côte d'Azur pour participer à la renaissance de cette course mythique qui faisait la une des gazettes.
Après 3000 km parsemés d'embûches de toutes sortes, les rescapés du rallye de Monte-Carlo ont rejoint la Côte d'Azur. Partis de tous les coins d'Europe, les concurrents, après leur arrivée, ont d'autres tâches assez rudes à accomplir. Et c'est dans le lacet du Mont des Mules, dans un de ces paysages de rêve que seules les routes françaises peuvent offrir aux touristes du monde, en présence de l'ex-roi de Roumanie, que les dernières épreuves de classement vont confirmer une écrasante victoire française. Après les concours de maniabilité, d'élégance et de confort, le classement général donne la victoire à une Hotchkiss, aux lignes pures et bien françaises que Trévoux et Le Zurk ont conduites au triomphe pour la deuxième fois. Et la troisième catégorie revient à Rosier qui, en battant sur sa 4 chevaux Renault toutes les voitures deux fois plus puissantes que la sienne, démontre que c'est l'industrie française qui a raison.
Yvan Gasteau, sur la ligne d'arrivée de ce rallye de Monte-Carlo 1949, personne n'a vu passer la voiture d'Hélénice. Et pour cause, elle n'a pas pris le départ. Pour quelle raison, Yvan ?
Ah oui, elle n'a pas pris le départ parce que bon, Hélénice a atteint un âge de maturité, hein, elle a bientôt 50 ans. Elle continue hein, à ambitionner de s'affronter aux hommes qui sont dans ces milieux, dans ce milieu de l'automobile. Et effectivement, dans le gala qui précède le retour du rallye Monte-Carlo, la veille du début de ce rallye en 1949, eh bien Louis Chiron, dont vous avez parlé, celui qu'on appelle le renard d'ailleurs, hein, oui. Qui est ce pilote monégasque, il a une statue à Monaco, Louis Chiron, aujourd'hui, il est né en 1899, donc à peu près au même moment que Hélénice, eh bien... Il règle ses comptes, peut-être pour des raisons de rancœur, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il va faire une esclandre hein, dans cette soirée de gala, puisqu'il va accuser ouvertement et devant tout le monde Hélénice d'avoir été une figure de la Gestapo pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Hein, il va l'accuser de tout un ensemble de maux, hein, d'avoir été même un agent de la Gestapo, ce qui va avoir, pour le dire rapidement, eh bien l'effet de briser net sa carrière hein, et de lui jeter un discrédit. Il ne faut pas oublier qu'on est en 49, que l'épuration n'est pas terminée. terminée.
Pas terminée, hein, absolument.
Que, cette accusation, même si elle est non vérifiée, va faire beaucoup de tort à Hélénis. Hein. D'ailleurs, Louis Chiron, pour dire un mot là-dessus, hein, il n'était pas tout à fait net.
Et oui.
Non plus, puisque lui avait été en 1936, hein, c'est un personnage assez intéressant aussi, Chiron, il avait été pendant une année dans l'écurie nazie de Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz, effectivement.
Oui. Et oui, voilà. Et puis.
Et les nazis en avaient fait une tête de gondole, Yvan. C'est-à-dire qu'en fait.
Alors, pour faire du ménage, il avait accusé Hélénis.
Oui, bien sûr. Et il faut quand même préciser pour dire les choses, c'est que les nazis avaient fait une tête de gondole, Louis Chiron, au volant d'une Mercedes-Benz. Et à l'époque, un pilote qui s'appelait René Dreyfus, hein, je crois qu'il était juif, n'avait pas le droit de courir, lui, sur Mercedes-Benz. C'est-à-dire que Chiron vient accuser Hélénis d'être agent de la Gestapo en 1949, mais il n'est pas tout propre non plus, en effet, Louis Chiron.
Effectivement, et en même temps, on se rend compte que cette manière de procéder, hein, devant un large public, a fait tout son mal, hein, puisque être accusé d'être un agent de la Gestapo lorsqu'on est une femme en 1949, c'est effectivement être voué aux gémonies en quelque sorte, hein, et donc ça va porter un coup fatal, on pourra dire, à la carrière d'Hélénis. Et donc, elle ne prend pas le départ le lendemain et sa carrière va connaître un déclin inexorable.
Et oui, parce que très vite, elle est exclue de ce monde-là, du monde automobile, qui était le sien, d'ailleurs. Or, depuis, Lionel Lucas, il y a une biographe très sérieuse, une biographe britannique, qui s'appelle Miranda Seymour. Elle a beaucoup travaillé sur ces accusations de Louis Chiron. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé, Lionel Lucas ?
Eh bien, elle n'a rien trouvé.
Et voilà.
ça confirme. Donc, elle a fait des recherches en Allemagne et en France.
Dans les archives, notamment allemande à Berlin.
Tout à fait. Et il y a rien du tout, en fait.
Et oui.
Et,
comme le dossier est vide.
Comme le disait Yvan, c'est à cette époque-là, c'est encore la chasse aux sorcières. S'il y avait une once de doute, on aurait trouvé des choses. Et surtout, Hélénis côtoie des gens qui ont été ouvertement des résistants. Donc on n'imagine pas qu'elle ait pu les côtoyer si elle avait eu un rôle sombre. Donc il n'y a rien du tout, et voilà, rien du tout, tout simplement.
Mais maintenant, Bossenet, que les conséquences, comme disait Yvan, de cette accusation publique sont tragiques, parce que c'est l'effondrement, c'est-à-dire qu'elle va perdre ses sponsors, ses amis. Arnaldo, le petit ami, prend la fuite avec la caisse, en gros les économies de la famille, enfin de la famille du couple. À quoi ressemble la fin de vie d'Hélénis dans les années 60-70, Marnon?
Ah bah c'est bouleversant parce que elle a plus rien en fait, enfin quasiment plus rien, et en plus Arnaldo Binelli s'en va avec la caisse, avec l'argent,
les économies.
Mais également avec la secrétaire de l'association La Roue Tourne, qui aide Hélénis dans toute la fin de sa vie. En fait, elle, ce qu'on sait, c'est que Hélénis, elle est épaulée par l'association La Roue Tourne, qui aide les anciens artistes et qui existe d'ailleurs toujours. Et elle était amie donc avec la présidente Jeanne Alajarnac, avec qui elle a vraiment une relation amicale pendant 30 ans, enfin les 30 dernières années de sa vie. Et il se trouve justement ce que disait Lionel juste avant, Jeanne Alajarnac était une résistante. Donc ça confirme encore plus que c'était une calomnie, cette histoire d'accusation, de collaboration. Bref. Et donc, elle travaillait pour le compte de La Roue Tourne. Elle était chauffeur automobile. Voilà. Ça lui permettait de subvenir à ses besoins. Et il y a 3 semaines, quand on a échangé avec donc la fille du dernier propriétaire d'Hélénis, qui l'a connue donc et qui a parlé tous les jours pendant un an en 74-75, elle disait que Hélénis était pimpante, c'était quelqu'un de toujours gay, donc à 76 ans à peu près. Elle parlait de la pluie et du beau temps et elle était toujours pleine d'entrain. Donc elle partageait sa vie entre Paris à La Roue Tourne et un peu la Côte d'Azur. Ça c'est ce qu'on sait. Et puis elle était toujours également en lien avec sa famille, Solange, Henri. On a retrouvé des lettres jusqu'à très tard. Mais effectivement très difficile. Elle n'exerce plus la course automobile. C'est le désespoir quand même.
Yvan Gasteau, un mot.
Oui, je voulais dire aussi que, alors on peut imaginer, hein, ce sont deux quinquagénaires qui s'affrontent, Louis Chiron qui a plus de 50 ans, Hélénis qui a bientôt 50 ans, effectivement on peut considérer que les belles années de la carrière d'Hélénis, c'est les années 20 lorsqu'elle est danseuse au début des années 20, et surtout la fin des années 20 et le courant des années 30, où elle est une star absolue. La guerre est souvent un événement qui vient éteindre un certain nombre de carrières, ça c'est certain, et dans la relance de 1949-1950, elle est coupée par ce Chiron contre lequel elle aura une dent jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Chiron est mort en 79, elle est morte en 84, ils ont une vie parallèle.
Oui.
Effectivement, je voulais dire aussi que j'ai fait une petite, toute petite recherche pour l'émission, mais ce serait finalement un sujet qui mériterait qu'un historien, en accompagnant Lionel oui. ici dans son travail... viennent creuser, si c'est possible, des sources. Moi, je sais qu'en 1984, lorsqu'elle meurt à Nice, dans un tout petit appartement du quartier Est, le quartier ouvrier de Nice, hein, elle qui a connu les fastes, elle finit sa vie dans un petit appartement à Nice, eh bien, il n'y a pas de nécrologie dans la presse locale, ni dans la presse sportive concernant Hélène Nice. Donc, c'est dire si elle était totalement oubliée à la fin de sa vie. Hein,
il faut rappeler que à sa mort...
On est là dans la nécessité de retrouver des moments qui avaient été complètement oubliés à ce moment-là.
Il faut rappeler qu'à sa mort, Hélène Nice n'a vraiment plus un rond. Et donc, c'est la roue tourne qui va payer la crémation d'Hélène Nice. On ne sait pas quoi faire descendre. Alors du coup, on envoie les cendres qu'il reste dans une urne à la sœur d'Hélène Nice qui vit toujours dans la Beauce. Et là, Lionel, que se passe-t-il? Donc la sœur reçoit les cendres d'Hélène Nice et qu'est-ce qu'elle fait?
Mais pas grand-chose en fait, oui. Elle fait vraiment le strict minimum. Voilà, donc c'est bol calice jusqu'à la lit, quoi. Jusqu'à la fin, elle est oubliée. Maintenant, il faut aussi se remettre dans le contexte.
Il faut quand même dire, je précise deux secondes, c'est qu'en oui. fait, elle prend les cendres, oui. elle les met dans le caveau familial sans mettre le nom du tout
de, tout à fait,
de
ouais.
Mariette de Langle. Hein, elle est assez vite. En fait, elle l'a fait disparaître aussi parce que sans doute qu'Hélène Nice incarnait quelque chose que la sœur détestait.
Ouais,
l'émancipation féminine. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend. Donc,
on entend ça après. Voilà, Solange n'était pas toute jeune non plus, elle avait mais 80 oui. ans, elle est décédée en 86. Hélène Nice avait toujours une image sulfureuse, elle était à l'étranger, on ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Donc,
elle avait un peu peur, peut-être.
Ouais, peut-être qu'un peu peur, et on oui. se mettait un peu en retrait, oui. et donc voilà,
ça embêtait tout le monde. Paquet, peut-être
voilà. C'était pas forcément une détestation absolue, oui. mais on s'en méfiait un petit peu, quoi.
Néanmoins, Yvan, il faut quand même rappeler que, alors, on a beaucoup là ce soir accusé Louis Chiron, qui a effectivement désigné Hélène Nice comme agent potentiel de la Gestapo sous l'occupe. Mais plus globalement, Yvan, il faut quand même dire qu'elle se retrouve, elle, face à une société masculine qui a été humiliée par une débâcle déjà en juin 40, une virilité humiliée par 4 ans d'occupation allemande, c'est-à-dire que derrière, Hélène Nice, elle est prise de rester chez elle, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'elle a défié les hommes dans les années 30 sur des circuits, mais ce serait bien qu'elle la ramène pas trop, quand même, Yvan, non ?
Oui, bien sûr, Philippe, vous avez raison. Alors, c'est vrai, ne critiquons pas trop Louis Chiron. Il y a oui. cet épisode malheureux, mais Louis Chiron, c'est aussi un grand sportif monégasque, oui. d'ailleurs. Hein. Il a une très très belle victoire et c'est un sportif hors du commun. Bon, il y a cet épisode malheureux qui est aussi la petite histoire, on pourrait dire, du sport, mais qui est aussi une histoire importante à relater. Et d'autre part, vous avez raison d'évoquer cette guerre qui va être un coup d'arrêt au sport féminin, quand même. Hein. Les traces du gouvernement de Vichy et l'éternel féminin sont encore bien présentes après 1945. Hein. Il me semble que le sport féminin qui s'était bien développé, on en a parlé dans une autre émission, s'était bien développé oui. Dans les années 20 et dans les années 30, a connu un coup d'arrêt avec la guerre et a eu du mal véritablement à repartir. Et Hélène Nice est un peu l'incarnation de cette difficulté à retrouver sa place dans un milieu qui est redevenu quasiment exclusivement masculin, à tel point que ça peut être un facteur d'explication de l'oubli qui sera le sien par la suite.
Mais Yvan, c'est assez incroyable de s'apercevoir combien de grandes sportives françaises, d'ailleurs, d'avant-guerre, comme Simone Mathieu ou Marguerite Brockedis pour le tennis, ou Ostermeyer, oui, par exemple, bon. Pour l'athlétisme, ou Hélène Nice pour oui. la course automobile, on sont sortis des mémoires. C'est-à-dire qu'on a oublié ces noms. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire du sport au féminin à écrire? C'est un terrain en friche, Yvan, quand même, non?
Je crois qu'il y a eu un trou d'air à mon sens. Hein.
Oui.
Je pense que le sport féminin, on a beaucoup eu tendance à oublier cela, a été très très riche hein, dans ces années qui ont un petit peu précédé la Première Guerre mondiale et surtout pendant l'entre-deux-guerres, notamment lorsque les femmes sont venues dans ce contexte d'émancipation, l'époque de la garçon, enfin ces années 20 et 30 qui étaient des années vrombissantes effectivement où les femmes ont eu un certain nombre de femmes hein, ont eu leur place dans l'univers sportif. La guerre est venue marquer un coup d'arrêt à cette situation. Et puis dans les années qui vont suivre, les 20, 30, 40 années qui suivent, il n'y a plus rien, ou plus grand-chose. Hein. Et du coup, plus grand-chose en tout cas de ce côté flamboyant. Et du coup, il me semble que ça c'est un facteur qui permet d'expliquer pourquoi ces figures ont disparu, parce qu'il n'y a pas eu de continuité autour de ça. Hein. Il faut attendre ces dernières années, la preuve, on en parle aujourd'hui, pour qu'on retrouve,
oui.
peut-être, en creusant dans le passé, ces figures qui, pendant longtemps, ont été complètement éteintes.
Manon Bossenet, alors, Hélène Nice est oubliée en France, on en a parlé ce soir, mais elle est moins oubliée dans le monde anglo-saxon. Par exemple, il y a une grande fondation, je crois, aux États-Unis qui porte son nom. La biographe Miranda Seymour en a fait une biographie, la Bugatti Queen, qui a très bien marché en Angleterre. Ça, on sent qu'elle est moins oubliée à l'extérieur, finalement, de la France que chez nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai que Miranda Seymour a eu, en fait, on lui a soufflé de faire cette biographie. C'est, pour être précise, un antiquaire londonien qui a retrouvé des carnets d'Hélénis sur des étals de brocante à Nice.
Un journal intime, en fait, c'est ça, oui. Des journaux intimes.
D'Hélénis. Et c'est ça qui a donné l'idée à Warner Daily, donc l'antiquaire londonien. Il a appelé Miranda Seymour en disant « faut que tu fasses une biographie sur elle ». Donc c'est un peu un concours de circonstances. Mm-hmm. Et puis, effectivement, Miranda Seymour a été en lien avec cette femme, Cheryl Green, qui s'est prise d'enthousiasme et de passion pour l'histoire d'Hélénis, mais qui est aussi impliquée dans les sports automobiles féminins de façon générale, en fait, aux États-Unis, et qui s'appelle donc, qui a créé donc The Hellenized Foundation. Et donc, c'est grâce à toutes ces personnes, notamment, qu'on a pu aussi faire la commémoration en 2010.
Est-ce que la biographie est traduite en français de Miranda Seymour? Non?
Absolument pas.
C'est 2004 hein, quand même. C'est quand même il y a 15
c'est
2004, ans.
C'est étrange. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un très beau livre qu'on va faire pour rendre
avec
hommage.
Avec Lionel Lucas, évidemment. Ce sera pour dans quelques mois. Lionel, pour finir, il y a une rumeur qui court depuis quelques mois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que la firme Bugatti voudrait sortir dans les mois prochains un modèle d'une Bugatti qui porterait le nom d'Hélénis. Vous avez un peu d'informations là-dessus ou pas?
Ah bah l'histoire serait superbe. Ah, ils ont sorti il y a quelques années la Chiron.
Oui.
Alors,
Louis Chiron,
et sortir la Chiron et la Hélénis, c'est quasiment un geste
c'est
politique.
C'est crédible ou pas? C'est crédible?
Non, c'est faux. En fait, j'ai posé la question. Alors, c'est faux, mais on peut se mettre à rêver un peu. Mm-hmm. J'ai posé la question à un responsable assez haut placé chez Bugatti. Ouais, il m'a dit non, on n'a rien dans les cartons.
Ouais.
On n'a pas de nouveau modèle Hélénis. Mais par contre, il m'a posé des tonnes de questions sur ce qu'on faisait. Quel est le livre sur Hélénis? Combien de pages? Il sort quand? Quel prix? Vous faites quoi dessus?
Peut-être qu'ils vont réfléchir.
Et il m'en demande des choses, donc je lui envoie des infos. Donc, on va dire qu'elle intrigue chez Bugatti. Ça laisse pas insensible. Oui. C'est déjà une petite victoire, on peut dire.
Absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus ce soir. C'était passionnant. Je rappelle que vous pourrez bientôt vous procurer ce roman graphique
aux éditions
Lionel
Red Runner.
Lucas, ouais, aux éditions Red Runner. Donc, livre coécrit par Lionel Lucas et Manon Bossenec.
Et Yannick Bourgoin, Marine Fragnat, qui a eu l'idée du roman graphique. Et Yannick Bourgoin, on est quatre dessus.
Très bien. Donc, c'est un livre qui sera consacré à Hélénis, qui sera intitulé Rugissante. Ce sera le titre. Et bien sûr, vous pouvez vous procurer tous les travaux universitaires passionnant d'Yvan Gasteau, consacré à l'histoire du sport. Merci beaucoup à vous trois. On va continuer en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Mignonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, il est encore question de bolide et de Grand Prix. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, qui est à l'affiche ce soir?
Comme le championnat du monde de Formule 1 2020 s'est achevé aujourd'hui,
et oui,
à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi, je vais vous parler de Benjamin Biolay. Il a en effet publié fin juin un disque intitulé justement Grand Prix, qui rend hommage à l'univers de la F1. Cet album, qui a reçu un très bon accueil critique, est ressorti avant-hier dans une nouvelle version contenant 5 titres inédits.
Donc Biolay est un passionné de sport automobile.
En fait, c'est un passionné de sport tout court. Mm-hmm. Il a même un rapport presque hypernésique au champion qu'il admire. Ce chanteur, originaire de Villefranche-sur-Saône, peut ainsi vous parler pendant des heures, avec une précision redoutable, des grands noms passés et présents de la NBA ou de l'Olympique Lyonnais, son club de foot favori, mais aussi donc des grands pilotes de l'histoire de la Formule 1.
Alors qu'est-ce qui le fascine chez eux ?
D'une certaine manière, il se reconnaît en eux. Dans « Court-circuit », un passionnant documentaire de Laurent Jaoui, récemment diffusé sur Canal+, Biolay s'amuse ainsi à dresser des parallèles entre le quotidien des artistes et celui des champions de F1. Écoutez ainsi la comparaison qu'il établit entre la rivalité qui peut exister entre les musiciens d'un groupe et celle qui oppose parfois les pilotes d'une même écurie.
Les rivalités les plus violentes que j'ai vues dans des groupes, c'est des rivalités artistiques, strictement artistiques en fait. C'est-à-dire à peu près comme des champions, quand il y en a un des deux qui veut gagner, qui veut prendre le pouvoir du groupe. On l'a vu dans le plus célèbre groupe du monde, qui s'appelle les Beatles. qui à l'origine s'appelait Johnny Moondog and the Silver Beatles, puis Long John and the Silver Beatles. Donc on sait très bien qui était le chef à la base. Ouais. Ça s'est bien passé quand le petit bassiste Polo, il était bien gentil. Puis dès qu'il a voulu faire les chansons, là ça a été la guerre. Ça n'a jamais été une question d'argent. Donc je pense que là ça se ressemble. C'est pour être le meilleur, quoi, c'est tout. Ouais.
Et alors comment l'album Grand Prix aborde-t-il l'univers impitoyable de la F1 ?
Sans surprise, à travers ses pilotes.
Et oui.
Notamment ceux qui ont été victimes de leur passion. Car le point de départ de l'album Grand Prix, c'est une chanson du même nom que Biolay avait composée il y a quelques années en hommage à Jules Bianchi, un pilote de F1 français décédé en 2015 des suites d'un accident en course. Voici un extrait de ce morceau.
J'ai raté ni maman ni ma vie, même si j'ai jamais conduit ta belle Ferrari. J'ai raté ni maman ni ma vie.
Et alors, est-ce que Grand Prix fait référence à d'autres pilotes de F1 ?
Oui, le disque évoque aussi la figure mythique d'Ayrton Senna, triple champion du monde brésilien qui est mort, on s'en souvient, le 1er mai 1994, après une sortie de route au Grand Prix de San Marin. Sa mémoire est saluée dans le titre Interlagos Saudade.
À Interlagos, ce dimanche, il y avait Grand Prix. Ayrton était dans chaque esprit. Le soleil sonne, le promeneur vert de gris que je suis. Dans cette cité plus grande et moins sale que ma vie. Au premier virage, j'ai eu rendez-vous avec des esprits. Je sais pas pourquoi me sont revenues toutes ces conneries. Depuis, je souvire, je survire, je soupire. Et je respire, puis j'expire.
Donc, ce qui intéresse Biolay dans la F1, c'est sa dimension tragique.
On pourrait élargir le raisonnement en affirmant que dans toute l'œuvre de Biolay, l'automobile est présentée comme un vecteur de drame. D'ailleurs, pour moi, une des plus belles chansons qu'il a composées raconte un accident de voiture. Elle ne figure pas dans Grand Prix, mais dans Home, un disque de 2004. Il s'agit d'un duo avec Chiara Mastroianni, intitulé La balade du mois de juin, et c'est splendide.
J'ai caché une autre branche future. Quand j'ai foncé vers la mer en voiture, j'ai foncé à l'arrière, j'avais ma guitare, m'ont laissé passer trois tonnes de bazar. Quand j'ai heurté de plein fouet les pleins phares.
Alors une grande tristesse qui émane de tous les titres que vous nous avez fait écouter ce soir, Pierre-Étienne.
Oui, je dois dire que ça ne représente pas forcément la remarquable diversité de styles et d'humeurs contenue dans l'ensemble de la production de Biolay. Alors pour vous en convaincre, il suffit d'écouter France Inter jeudi prochain.
Absolument.
À partir de 21h, il donnera alors un concert retransmis sur cette antenne depuis la Cigale en compagnie de Catherine Ringer et Alain Souchon.
C'est noté, on sera au rendez-vous.
Bonne soirée.
Merci, à la semaine prochaine. On attend Biolay, c'est venir dans l'œil du tigre parler de sport, c'est quand il veut, il est le bienvenu. Et voilà, cette 15e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, bien sûr, Henri Marc Mutel. Merci Marco, merci Junior. Assisté ce soir à la technique de Ludovic Aslo. Merci Ludo, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin, pour les Scuds et Luc Saunier, pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire des Jeux Olympiques antiques. Et vous verrez qu'aux origines du sport, il s'agissait avant tout de jeux funéraires, un don de la vitalité des vivants aux morts. C'est passionnant, les Jeux Olympiques sous l'Antiquité. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.